rien n'est joué.
Rien n'est joué.
Madeleine Caboche.
Avec tout à l'heure Lucas Torrance. Et oui, cette fois-ci, c'est sûr, c'est la rentrée. On vous a parlé de la mer à cet horaire entre 10 et 11 pendant l'été à marée haute. Mais la grille d'été prend fin sur la première et l'odeur bleue de cette fameuse mer est déjà lointaine. Habituellement, le printemps s'annonce à coups d'éclosions de bourgeons et de vols effrénés d'hirondelles. La rentrée d'automne, ce sont les cartables neufs et les nouveaux livres de la rentrée littéraire, dont le vôtre, Amélie Nothomb. Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Madeleine Caboche.
Alors, Le voyage d'hiver, c'est chez Albin Michel. C'est le 18e roman, pour mémoire. Oui. Hein, c'est ça, hein, Amélie?
Non? Mais oui.
Oui. Alors, pour mémoire, le premier récit, hein, on remonte dans le temps juste comme ça pour mémoire. Premier récit et succès immédiat en 1992. Vous avez 25 ans. Depuis, vos livres ne cessent, Amélie, de ne rencontrer leur public, notoriété totale. Je me disais justement, en bavardant avec Lucas, qu'on va rejoindre tout à l'heure. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Je me disais, ça doit être étrange parce que la notoriété, ça fait que les lecteurs soit sont admiratifs, soit critiques. Et puis, il y a plus cette virginité du lecteur du premier livre. Vous rêveriez quelquefois de la retrouver, cette virginité-là, du lecteur, Amélie Nothomb?
Mais moi, je sais pas, je dois être une nouvelle forme d'immaculée conception. J'ai toujours cette impression de virginité. Je me sens vierge à chaque fois. Bon, nombreuses sont les femmes qui disent ce genre de fadaise, mais dans mon cas, c'est vrai.
Mais les lecteurs? Les lecteurs, ils vous ont lu avant, donc ils ont une attente, ils savent ce qu'ils veulent.
Mais pas toujours, vous savez. Bien sûr, il y a les fidèles lecteurs qui m'ont déjà lu avant et qui, je ne sais pas exactement ce qu'ils attendent, c'est difficile de le savoir. Mais chaque année, il y a les nouveaux lecteurs, vu que chaque année, il y a des adolescents qui commencent à me lire et pour lesquels c'est la rencontre. Mmh. Donc, ce phénomène de virginité continue. Mmh. D'autre part, même s'agissant des fidèles lecteurs, je veux croire que il y a toujours du neuf et qu'ils peuvent être étonnés. Non, en tout cas, moi, je le suis. Donc, si je le suis, pourquoi ne le serait-il pas?
Il y a toujours du neuf, bien sûr, mais c'est juste cette attente comme ça de eux que je ne sais pas comment vous ressentez. Cette rentrée littéraire, par exemple, vous la vivez comment? C'est encore plus de stress que les autres années ou il y a du calme?
Chaque année, c'est un stress plus grand que la fois d'avant. Oui, puisque ça fait maintenant de nombreuses années que la très belle aventure continue. Et bien sûr, j'en suis extrêmement heureuse, mais je ne considère pas du tout ça comme une garantie. Bien au contraire, je me dis que plus dure sera la chute. Donc, je suis encore plus stressée que toutes les rentrées précédentes réunies.
Pourtant, on sait justement que tout de même, il y a des acquis, il y a une confiance, il y a un lectorat qui est là, qui va rester là. Et ça donne pas confiance.
Je suis pas de ce genre-là.
C'est vrai.
Oui, j'ai peur de décevoir et puisque les gens sont nombreux, j'ai peur de décevoir d'autant plus.
Vous savez, je lisais Fanny Ardant qui disait il n'y a pas longtemps « Fadaise l'expérience, c'est à chaque fois pire ». Un peu la même chose que vous, l'expérience ça sert à rien du tout.
Tout à fait d'accord. L'expérience ça sert à rien du tout. Chaque fois qu'on écrit un nouveau livre, on a l'impression que c'est la première fois qu'on écrit un livre et que c'est monstrueusement difficile et on se demande vraiment comment on va se sortir de là. Quand il s'agit de le publier et d'aller rencontrer Madeleine Caboche, c'est toujours la même chose, à savoir « Mon Dieu, cette personne va me poser des questions et il va falloir répondre ». Et donc, c'est toujours aussi effrayant.
On s'y prépare un peu parce que vous avez déjà fait pas mal d'émissions hein, depuis la parution ces jours-ci. Comment vous vous y préparez à ces émissions?
Il n'y a aucun moyen de se préparer. Ouais. Aucun. Et tant mieux d'ailleurs. Mais c'est impossible de savoir quelles questions vont être posées. Et c'est impossible aussi de savoir quelle personne on sera à ce moment-là. Parce que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Tout dépend de l'état de panique ou de distraction dans lequel on peut être. Donc, il n'y a aucun moyen de se préparer à ça.
Alors, on va parler du livre, bien sûr. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de revenir sur ce livre. Donc, Le voyage d'hiver, Amélie Nothomb, chez Albin Michel. On va parler de musique aussi, puisqu'il y a des musiques qui sont présentes dans le livre, notamment la musique du titre, hein, Le voyage d'hiver, de Schubert. Oui. On va parler peut-être brièvement de la photo de couverture. Mais avant toute chose et avant la première chanson de l'émission, Amélie Nothomb, avez-vous passé un bel été?
J'ai passé un été très reposant. Il n'est pas fini. Là, à mon avis, il ne va plus être très reposant maintenant. Mais jusqu'ici, ce qu'il me fallait, c'était du repos. Et c'était le repos a été au rendez-vous.
Comment vous vous reposez au bord de la mer?
Non, pas du tout. Je vais m'enterrer dans un trou en Belgique, où je ne vois personne. Et je sors de mon trou après 4 semaines.
Et c'est ça, c'est la solitude qui reclinque?
C'est la solitude, c'est le fait de se sentir aussi loin de Paris que possible, et puis d'être avec mes proches, bien sûr.
Donc, Amélie Nothomb jusqu'à 11h, tout à l'heure le billet de Lucas Torrens, et on va commencer, c'est le réflexe qu'on a pris avec l'émission à marée haute, par des chansons, et ça c'est Ariane Moffat qui chante « Éternel instant présent ». Rien n'est joué, la reprise, la grille de la rentrée avec Amélie Nothomb, le voyage d'hiver et puis le billet de Lucas Torrens.
Amélie Nothon, comment est-ce qu'elle écrit autant de romans? Ben c'est simple, elle a un truc, et en plus comme elle n'est pas méfiante, son truc elle le dit à tout le monde. Son truc c'est un rituel. Tous les matins, Amélie Nothon se réveille à 4h, elle se fait un thé noir très fort, elle écrit environ 4 à 5 heures avec un bic cristal bleu dans un cahier d'écolier, et avec ça elle écrit 3,7 romans par année. Et comme c'est vraiment pas normal que ce soit toujours les autres qui écrivent 3,7 romans par année, j'ai essayé moi aussi le régime Nothon. Amélie Nothon, c'est un look, c'est un art de vivre, c'est un style. Première étape, réussir à me lever à 4h du matin. Et en fait, c'est assez facile de se réveiller à 4h du matin. Il suffit d'avoir assez de réveil autour de son lit. Moi, j'en avais 14, plus une horloge à bascule au niveau de la tête. Et donc, 4h, tout se déclenche en même temps. Et c'est définitivement très facile de se lever, surtout quand, comme moi, vous avez eu l'intelligence d'acheter une authentique sirène d'alarme antinucléaire aux puces. Donc, 4h01, je suis hors du lit. 4h15, je finis d'expliquer à la police que non, le plan catastrophe d'évacuation du quartier n'a pas lieu, mais que oui, ça vient de chez moi. 4h22, je finis de signer le reçu de mon amende pour incitation à la panique nucléaire en milieu urbain. 4h25, j'explique à la police que non, je n'organise pas une partie fine chez moi et que si je suis en slip avec du rouge à lèvres et un chapeau noir, c'est pour faire comme Amélie Nothon qui écrit 3,7 livres par année. 4h32, je leur explique que non, je ne suis pas Amélie Nothon mais je veux faire comme Amélie Nothon. 4h48, je finis par avouer que oui, c'est moi Amélie Nothon. Ils me confient qu'ils adorent ce que je fais parce que mes livres sont courts et écrits gros. Je leur souhaite une bonne journée et leur fais chacun un bisou sur la joue et je peux enfin retourner à mes occupations. Ma cuisine, 4h54. Dehors, la nuit noire, pas un bruit à part le frigo qui chantonne la Marseillaise et une lampe crue au milieu de la place, dessous mon bureau, un stylo et mon petit cahier. Un stylo, le Bic cristal bleu. Parenthèse, hein, je pensais que ce serait pas facile à trouver un Bic cristal bleu, mais en fait, il suffit d'entrer dans n'importe quelle papeterie, là vous tombez face à face avec une Amélie Nothon en carton taille réelle, avec ce slogan écrit en lettres gothiques, cristal bleu, l'hygiène de l'écrivain. Alors évidemment, j'ai un peu honte en achetant le stylo, mais c'est une honte vite dissipée quand on se retrouve avec 15 autres adolescents à la caisse, tous avec du rouge à lèvres et un chapeau noir. Et puis là, c'est l'occasion d'échanger quelques trucs d'experts, Amélie Nothon. La meilleure manière de dévaler une montagne, comment faire macérer ses fruits, etc. Donc on revient dans ma cuisine, c'est le matin, je veux écrire 3,7 romans. Tout est prêt, sauf le thé. Alors je me fais chauffer de l'eau, et là je me prépare un thé noir tellement fort que je le bois plus mon thé, je le mange. Mon thé noir, je le mâche. C'est plus du thé noir, c'est du cake. Je prends alors mon Bic cristal bleu, prêt à l'action. Le seul problème, c'est que je suis tellement inspiré par la théine que j'écrase mon stylo sur le cahier, la poche d'encre explose et je perfore la table. Alors, un moment de doute, c'est vrai, à 5h22, un petit moment de doute, je décide de me relaxer, ce qui est difficile vu toutes les crises cardiaques que je fais à cause de l'excès de théine. Mais en deux spasmes, j'arrive quand même à ramper sous la douche ou en position fœtale sous un jet d'eau glacée. J'arrive à penser au scénario de mon premier roman. 7h32, je me calme un peu, je suis devant mon cahier avec un verre de lait, une boîte de Rény, et je commence à écrire lentement de belles et grande lettre bleue. 20 minutes plus tard, stupéfaction, je ressemble à Robert Smith après une vasectomie, mais surtout j'ai écrit 3,7 phrases, stupeur, tremblement, ça marche. Mais vient alors la dernière étape, la plus dure, de garder qu'une phrase sur les 3,7 et mettre les 2,7 autres dans un tiroir où à jamais elles pourriront. Après un petit moment d'hésitation, je décide de jeter les 3,7 phrases, comme ça c'est sûr, je ne vais pas garder la fausse. Et vous Amélie Nothon, comment vous êtes sûre de garder toujours la bonne phrase ?
Amélie.
Oh, mais je n'en suis absolument jamais sûre, mais
merci,
le seul
Lucas.
Truc que je peux vous dire, c'est que je suis très loin de publier tout ce que j'écris. Excellent, votre petit sketch.
Vous êtes loin de publier tout ce que vous avez écrit, c'est vrai, on le sait ça. Mais en résumé, Lucas n'est pas Amélie Nothon qui veut. On peut avoir
elle ne supporte pas la théine qui veut.
Voilà.
Surtout.
Ça, c'est vraiment vrai, le demi-litre de thé noir. Hein, et les quatre...
C'est archi vrai, et ce qui est tout à fait vrai, c'est que comme le faisait votre collègue, beaucoup de gens ont essayer.
C'est vrai.
Disant, voilà, il suffit de boire un demi-litre de thé très fort par jour. Et dans l'immense majorité des cas, la réaction, c'est qu'ils ont vomi. Donc voilà, ils n'ont pas écrit de livre, ils sont tombés malades.
Amélie Nothon, je reprends tous les éléments, mais il en aurait pu en sortir d'autres, Lucas Torrent, hein. Utiliser des traits que l'on lit à l'infini dans les articles, hein, les 3,7 livres. Mais au fond, c'est comme une carapace toutes ces informations que vous donnez, parce que vous ne dites rien de vous. On sait le demi-litre de thé noir, on sait les lèvres rouges, les chapeaux, si ça existe toujours. Mais que sait-on vraiment de vous? C'est pratique pour se cacher toutes ces infos?
Je ne sais pas si c'est pratique, mais en tout cas, c'est la vérité. Et quant à savoir ce qu'il y a en moi, à supposer que moi, je le sache, il y a quand même 18 livres. Et dans ces 18 livres, je crois que ça peut quand même donner un petit peu une idée de ce qu'il y a en moi.
Mais vous disiez il y a quelques années dans Libération, sur le fait aussi que vous racontez volontiers la nourriture de pourriture végétale, vous dites à partir du moment où j'ai dit que je me nourrissais de pourriture végétale, mes ventes se sont multipliées par 10. Donc c'est quoi? Nous sommes qui, ces lecteurs, qui sommes plus friands de ces anecdotes que de littérature?
Mais il y a ce mystère qui prouve bien une chose, c'est que le marketing est la chose la plus incompréhensible au monde, parce que personnellement, on me dirait que quelqu'un mange, je sais pas moi, des spaghettis au chocolat, ça ne me donnerait pas forcément envie de lire ses livres ou d'écouter ses disques. Mais à côté de ça, je veux quand même croire que les gens qui me lisent, qui sont nombreux, le font pour de bonnes raisons.
Je crois que c'est vrai. Vous dites me connaître à travers les livres, mais il y a quand même toujours quelque chose qui reste incompréhensible à soi-même et aux autres, même si on lit les 18 livres, Amélie Nothomb.
Mais bien sûr, mais je suppose que personne, et surtout pas moi-même, n'a la prétention de me connaître entièrement, à supposer d'ailleurs que ça présente un quelconque intérêt.
Mais se connaître soi-même, c'est une vie en plus, hein?
C'est une vie je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, plus les années passent, plus j'ai l'impression que je ne sais rien du tout. Donc,
moi aussi.
Peut-être que quand j'avais 25 ans, j'avais très vaguement l'impression de savoir qui j'étais. Aujourd'hui, j'en ai 42 et je n'ai aucune idée de qui je peux être. Et dans 10 ans, ce sera pire.
Mais comment on explique ça? Parce que quoi? Il y a quelque chose de... Moi aussi, hein, j'ai la même sensation. Lucas, il est tout jeune.
Je suis encore jeune, ça va.
Mais ça vient de quoi? Ça, plus on vieillit, moins on sait qui on est, où on va.
C'est-à-dire que le peu de contours qu'on avait, je sais pas, c'est peut-être pas vrai pour les autres, mais le peu de contours que je croyais avoir, au fond, me paraissent très discutables. Le peu d'affirmations que je faisais à mon sujet m'a paru sujet à caution. Et au fond, c'est peut-être pas plus mal, parce que a-t-on besoin d'une identité tellement marquée? Ou peut-être est-ce tout simplement ma façon à moi d'être belge? Vous avez remarqué ces derniers temps que la Belgique avait tendance à se fragiliser à vue d'œil, et peut-être que je suis l'état de mon pays en devenant de plus en plus fragile, avec des frontières peu sûres et une existence douteuse.
Douteuse?
Oui, mon Dieu, vous savez, ça va devenir vraiment métaphysique, votre émission. Là. Est-ce que la personne qui vous parle en direct du studio de Paris existe?
Alors, je vais reprendre le livre dont nous parlons, donc Le Voyage d'hiver chez Albin Michel, Amélie Nothomb. Il y a un personnage qui s'appelle Zoïl, qui se raconte dans le livre, qui projette de faire exploser un avion et qui nous raconte le cheminement de son projet, on va le comprendre un peu plus tard. Il est le narrateur amoureux d'une jeune femme, astrolabe, d'une jeune femme qui protège un personnage très intrigant, qui est Aliénor. Alors Aliénor, c'est le nom gracieux d'une jeune femme qui est handicapée mentale, que vous surnommez la neuneu, la demeurée, la dingue. Et alors, il y a une chose incroyable, c'est qu'on réalise assez vite que cette neuneu, cette demeurée, cette dingue, est écrivain et qu'elle écrit des livres magnifiques. C'est incroyable, ça.
Oui, alors je ne sais pas si ces livres sont vraiment magnifiques, nous ne le saurons jamais puisqu'ils ne sont pas disponibles, mais c'est clairement le personnage
auquel je m'identifie dans ce livre. Hein.
Oui, vous identifiez. Oui, ils ont un certain succès et je m'identifie clairement à ce personnage. Donc je me disais que pour le cas où les gens ne s'en étaient pas encore aperçus, il fallait avoir l'honnêteté maintenant de spécifier que je suis neuneu, quoi.
Ça veut dire quoi exactement?
Eh bien, légèrement handicapé mental, c'est-à-dire c'est le stade où vous êtes encore sortable. On peut vous montrer, ça va, ça ne cause pas un drame, mais pour peu qu'on séjourne quelque temps avec moi, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout juste.
Et c'est douloureux?
Pour les autres peut-être, pour moi ça va.
Donc vous identifiez à ce personnage, mais ça on le devine assez vite parce que elle dit des choses qu'en effet vous pourriez dire, ou elle fait dire, Aliénor dit de cette jeune femme qu'elle accompagne, en écrivant elle parvient à formuler ce qu'elle ne voit pas dans le quotidien. C'est ça le métier d'écrivain?
C'est exactement ça, c'est aussi pour ça que c'est tellement fascinant d'écrire, c'est que c'est en écrivant que tout à coup on découvre ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver, non seulement dans le roman, mais aussi dans la vie réelle. Et on s'est dit, mais le restant du temps, je fais quoi quand je ne suis pas en train d'écrire? quelle espèce d'aveugle est-ce que je suis ? Ce n'est qu'au moment d'écrire que tout à coup le diagnostic se fait sur ce qui est en train de se passer.
Parce qu'on regarde mieux en écrivant ?
C'est le moment de la suprême perception, en effet. Enfin, j'envisage la littérature comme un travail de perception. Et c'est comme si le restant du temps, les perceptions étaient emmagasinées, mais pas analysées, pas réfléchies, pas même forcément réalisées. Et au moment de l'écriture, tout ça, l'image s'imprime enfin. Et c'est un moment de sidération intense.
Mais comme si la perception du monde, bon là donc vous en faites une comme vous dites, comme si aussi cette perception du monde que vous avez est due à une forme de différence que nous, si on n'écrit pas, on voit rien. Et heureusement qu'il y a les écrivains pour nous ouvrir les yeux.
Mais les autres, je n'en sais rien. Je n'ai jamais été quelqu'un d'autre que moi-même, donc. Je ne sais pas, peut-être que les autres sont dépourvus de ce handicap que j'ai et peut-être n'ont-ils pas besoin de livres pour se rendre compte, mais je sais que moi, en tout cas, j'en ai énormément besoin, non seulement des livres que j'écris, mais aussi des livres que je lis. Sinon, je ne vais pas dire que le restant du temps, il ne se passe absolument rien dans ma tête, mais j'ai quand même l'impression d'une très très grande inconscience qui ne s'interrompt qu'au moment de la littérature.
Quand vous écrivez, vous lisez les autres ou bien vous, pendant la période de l'écriture, vous renoncez à tous les autres écrivains ?
Ben, si je devais renoncer aux autres écrivains pendant le temps de l'écriture, ça serait y renoncer pour toute ma vie puisque je suis tous les jours de ma vie en temps d'écriture. Donc non, je ne renonce absolument pas à la lecture des autres écrivains. Je suis lectrice depuis beaucoup plus longtemps que je suis écrivain et je suis une lectrice extrêmement intense et boulimique.
Avec quoi, par exemple, cet été ?
Oh, mon Dieu, cet été, j'ai particulièrement laissé libre cours à ma boulimie de lecture. Alors, ça a été dans toutes les directions. J'ai découvert une romancière belge qui s'appelle Diane Meur, que je vous recommande instamment. Son dernier livre s'appelle « Les vivants et les ombres ». Ce livre m'a absolument bouleversée. Sinon, j'ai lu la Tâche de Philippe Roth, que je n'avais encore jamais lu et qui est un livre extraordinaire. Sinon, j'ai relu aussi, parce que je suis aussi une relectrice. Quand j'aime un livre, j'éprouve le besoin de le relire très souvent. J'ai relu L'Idiote Dostoïevski, ça fait quand même un certain volume. Et j'ai relu Gide aussi. Enfin, je vous fais un court résumé, parce que si je vous faisais toutes mes lectures d'été, on en a pour longtemps.
Vous lisez vite ?
Je ne sais pas. Je ne lis certainement pas lentement, mais comme je relis beaucoup... Au final, je ne sais pas.
Vous lisez un crayon à la main, Amélie Nothomb ?
Non, souvent je regrette de ne pas le faire. Mais en même temps, je crois que j'ai une espèce de paranoïa du crayon à la main parce que je me dis que mes livres seront certainement lus par d'autres et qu'il vaut mieux effacer ses traces, vous voyez.
Mais en même temps, vous dites, enfin non, c'est votre personnage, hein, Zoïl, qui dit dans le livre, il faudrait recopier les textes des auteurs qu'on admire pour mieux comprendre.
Ça, c'est une chose que je fais. Donc je ne suis pas du style à cocher un passage dans un livre. Par contre, recopier, c'est une chose que je fais. Bon, je ne recopie pas en entier, par exemple, recopier en entier... la première partie de L'Idiote Dostoïevski, bon, j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que recopier des passages de ce qu'on admire, c'est un moment d'incandescence. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend le mieux compte pourquoi on a raison d'admirer un texte.
Parce que tout à coup, on saisit la construction, la magie.
Parce qu'on voit encore mieux combien il était improbable d'arriver à une telle perfection.
C'est vrai.
Oui.
Et on voit la simplicité aussi.
La simplicité ou la complexité dans la simplicité et vice-versa.
Amélie Nothomb avec nous ce matin. Et pour essayer de décrypter un petit peu ce qui préside au commencement d'un livre, je vous invite à écouter avec nous cette musique précisément signée Schubert. Strauß. Rien n'est joué at rsr.ch avec ce message de Arlette. Merci Amélie d'être de nouveau parmi nous. Je me régale à chaque fois de vous entendre sur nos ondes. Votre dernier bébé est commandé depuis plusieurs semaines. Je vais le recevoir cette semaine et je me réjouis beaucoup de le lire. Que diable nous avez-vous concocté? Et puis Sylvia, chère Amélie, un pur plaisir de vous entendre sur nos ondes suisses. J'ai hâte de dévorer votre prochain roman. Un plaisir de vous revoir dans l'une de nos librairies pour une prochaine dédicace. Vous venez bientôt, Amélie?
Oui, je viens le 1er et le 2 décembre à Genève.
Bon, c'est paillot.
Merci Sylvia, merci Arlette et merci d'avoir fait passer le voyage d'hiver. J'ai passé un très très bon moment.
À partir de... Quand est-ce qu'elle arrive cette musique, Amélie Nothomb?
Elle a toute fin. Je dois dire que c'est... Le titre du livre est très 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 mystérieux. Parce que quand on, bon, quand on connaît le voyage d'hiver de Schubert et quand on commence mon livre... Je pense que le lecteur se dit, mais quel rapport peut-il y avoir? Bon, peu à peu, on comprend que c'est l'hiver, peu à peu, on comprend qu'il va y avoir quand même un voyage de, et même beaucoup de voyages de nature, tous très particulières. Mais la principale discordance, c'est quand même, vous venez d'entendre cette musique absolument sublime, d'une douceur ineffable. Et, alors qu'il s'agit d'un livre quand même très violent. D'entrée de jeu, on sait que le personnage s'apprête à faire exploser un avion. Un avion rempli de passagers. Donc, qu'est-ce que le voyage d'hiver vient faire dans tout ça? On le découvre à la toute fin, donc on va pas forcément le dire. Mais en même temps, ce n'est pas absurde si on sait que le voyage d'hiver est l'une des dernières musiques que Schubert ait composées. C'est une musique d'amour et de mort. C'est une musique d'amour frustré, d'amour déçu, d'amour non partagé. Et c'est une musique qui prépare à la mort. Donc, il y a quand même des rapports.
Alors effectivement, on va relever l'idée de faire tomber un avion plein de passagers, l'idée d'attentat terroriste. Enfin, on va le voir ça tout à l'heure. Et puis l'amour. Il y a sur la couverture du livre, Amélie Nothomb, Le Voyage d'hiver, il y a cette phrase « Il n'y a pas d'échec amoureux ». Et en effet, on assiste à cette rencontre entre ces trois personnages qui sont magnifiques et vraiment très très incarné de manière très forte. Donc il y a Zoil d'un côté qui veut faire tomber cet avion, il y a ces deux femmes dont je parlais tout à l'heure, Aliénor et Astrolabe, avec ces jolis noms. Impossibilité qu'il y a de l'amour des deux côtés entre Astrolabe et Zoil, un lien fusionnel entre les deux femmes empêche l'amour. Donc il n'y a pas d'échec amoureux, mais il n'y a pas, l'amour n'éclot pas quand même dans ce livre, Amélie Nothomb.
Il n'y a pas de rapport amoureux au sens où on l'entend. Mais le personnage prend quand même le parti pris que l'échec amoureux est impossible. Déjà, il considère que le simple fait d'éprouver le sentiment amoureux est en soi une telle réussite qu'on ne peut pas parler d'échec, même si l'amour n'est pas réalisé, même si l'amour n'est pas partagé. Bon, ceci dit, il est très paradoxal dans son point de vue, hein, parce qu'on voit ce qu'il s'apprête à faire de la part de quelqu'un qui trouve que l'amour est une réussite. C'est un point de vue très très paradoxal. Disons que c'est un jusqu'au boutiste du rapport amoureux. On lui claque la porte au nez et il décide que les choses auront lieu quand même, mais qu'elles auront lieu de façon ultra métaphorique, par une espèce d'acte complètement insensé, dont on n'est pas tout à fait sûr d'ailleurs à la fin du livre qu'il a vraiment eu lieu.
Alors, ce personnage dit, Amélie Nothomb, à un moment donné, puisque effectivement, ça bouillonne, mais ça ne se vit qu'à moitié. Le personnage dit, les femmes aiment toujours à contre-temps. Vous le pensez?
Toujours peut-être pas, mais souvent. C'est une chose qui arrive et, ceci dit, quelque chose me donne à penser que ce n'est pas un monopole féminin.
L'amour, c'est ce que je voulais vous dire. Oui.
Un échec humain assez fréquent. Les gens qui ouvrent les yeux trop tard ou trop tôt.
C'est pas l'attribut des femmes. Hein. Je crois que les hommes aussi sont largement.
On va faire un petit reportage. Alexandre, qu'en pensez-vous?
Alexandre, c'est le réalisateur qui est de l'autre
côté. Oui, il rigole derrière.
Est-ce qu'il opine du chef en disant oui, bah oui.
Ah, il dit rien. Il se retranche dans un silence. Voilà. Bon. Il est prudent.
Vous disiez, Amélie Nothomb, plusieurs voyages hein, dans le livre. Alors, je vais vous lire un moment très précis. On expliquera ce qui se passe après. Les personnages sont dans l'appartement d'Astrolabe et puis on regarde le sol, tout le monde s'assied sur le sol, on regarde le plancher et on y voit ceci. Il y a figé dans le gel des fleurs jamais vues, des caryatides de pétales, le froid les a frappées comme la foudre, elles ne sont pas au courant de leur trépas. Regarde, on dirait qu'elles tentent de percer la glace. Il paraît que les cheveux des cadavres continuent de pousser, ces fleurs sont peut-être la chevelure d'une défunte. Oui, je la vois, Zoil. Viens voir, tu la vois? Non. Si, regarde, entre les colonnes de marbre. C'est l'Artémision d'Éphèse. Mais il n'avait pas disparu, ce temple? Oui, toi et moi, nous savons où il est, sous ton plancher. Alors ça, c'est un drôle de voyage. Il fait froid, hein, vous disiez, voyage d'hiver. Il fait souvent froid dans le livre. Hein.
Oui, en France, en tout cas, le livre est sorti le jour le plus chaud de l'été. Donc, j'admire le contraste. Je sais pas, on vend un peu ça comme des sorbets maintenant. Vous avez chaud, lisez Le Voyage d'hiver. Le passage que vous avez lu est un voyage très particulier puisqu'il s'agit d'un trip. Les personnages ont pris des champignons hallucinogènes. Ils ont des visions extraordinaires. Et les visions les plus extraordinaires qu'ils ont, c'est dans le plancher. Donc ils sont, on peut les imaginer, qu'ils sont assis par terre, le nez au ras du plancher, et qu'ils sont en train de regarder ce qui se passe sous le plancher. Et c'est là qu'ils voient ces choses absolument extraordinaires, dont l'Artémision d'Éphèse.
Alors qu'est-ce que c'est ?
Depuis le temps qu'on se demandait, ah c'est l'une des sept merveilles du monde, c'est le temple consacré à la déesse Artémis, qui était à Éphèse, et qui a disparu sans laisser aucune trace. C'est ça qui est assez fascinant avec les sept merveilles du monde, à part les pyramides d'Égypte. Tous les autres ont complètement disparu sans laisser la moindre trace. Eh bien, voilà, peut-être qu'au moment où on tripe, on revoit les sept merveilles du monde, enfin les six qui ont disparu.
Alors tout à coup, cette arrivée des champignons, qu'est-ce que ça permet à l'auteur, tout à coup, de justement de décoller de la réalité aussi pour l'écrivain et de ne plus avoir de compte à rendre à ce qu'on appelle la réalité justement.
Au contraire, je pense que c'est une manière d'explorer suprêmement la réalité. Vous savez que tout ce qui est psychédélique, comme par exemple les champignons hallucinogènes, c'est ce que Aldous Huxley appelle les portes de la perception. On prend ces substances pour ouvrir les portes de la perception. Étant entendu que les perceptions en temps normal ne fonctionnent pas assez bien, mais on peut s'aider par ces moyens psychédéliques et découvrir la vraie nature des choses. Ici, on est dans mon roman dans une situation bien particulière, puisque Zoïl est fou amoureux d'Astrolabe, veut faire avec elle ce que tous les amoureux veulent faire avec leur bien-aimé, et se heurte à une fin de non-recevoir. Visiblement, ils ne pourront rien faire ensemble. Il veut quand même que quelque chose se passe. Du coup, il lui administre des champignons hallucinogènes, se disant que puisqu'ils ne peuvent pas faire autre chose ensemble, ils triperont ensemble. Et il y a la scène du trip, qui est, je pense, la grande scène du livre. Il en a aussi donné à la neuneu. C'est la première fois dans l'histoire qu'on fait triper une neuneu. Elle a aussi une manière très spéciale de triper. Mais mon but était d'accumuler les possibilités de voyage. Je considère que, à notre époque, le dernier grand voyage qui nous reste, c'est l'amour. Parce que le voyage, qu'est-ce que ça devrait être, un voyage? Un voyage, ça devrait être une aventure, une expérience dont on ne connaîtrait pas la destination et dont on ne serait pas sûr de revenir. Les voyages tels qu'ils sont aujourd'hui ne correspondent plus du tout à cette définition. Donc, si on veut voyager, il faut tomber amoureux, parce que c'est encore la seule façon de connaître ce déplacement dont on n'est pas sûr de revenir. Et tant qu'à faire ce voyage, eh bien, je le couple avec d'autres voyages tels que le trip.
Alors évidemment, j'imagine depuis que vous êtes en promotion, on vous pose la question, et vous, est-ce que vous avez pris des champignons hallucinogènes?
On me pose la question tous les jours.
Oui, j'imagine.
J'ai cru comprendre qu'en Suisse, on avait le droit de répondre oui à cette question. Je crois que les lois ne sont pas les mêmes en Suisse. Donc,
pas tout à fait.
Donc, vous répondez donc, oui. Puisque vous êtes suisse, je réponds oui, mais en France, je réponds que la loi ne me permet pas de répondre à cette question.
Mais pour aller à la rencontre de soi, là encore?
Parce que c'est un voyage extrêmement intéressant. Si, là encore, j'en reviens au livre de Huxley, Les portes de la perception.
Oui, à lire, si on lit ce livre, à lire, voilà, absolument.
Qui est une pure splendeur. On se dit, mon Dieu, il faut absolument que je fasse ce voyage-là. Bien sûr, ce n'est pas du tout un voyage à faire à la légère. Je ne suis pas du tout du style à dire, oui, allez-y, prenez-y, c'est sans danger, hop. Non, bien sûr, c'est une expérience dangereuse, comme souvent les vrais voyages. Il faut s'y préparer. Mais si on s'est préparé, si on prend toutes les précautions qu'il faut, c'est un voyage qui en vaut absolument la peine.
L'amour, le seul voyage, vous savez, Amélie Nothomb, j'ai eu des navigatrices là, la semaine dernière. Le voyage en mer contre vents et marées, les creux de vagues et la noyade possible, c'est encore une grande aventure qui peut se vivre ça aujourd'hui.
Oh, j'en suis absolument sûre, mais je crois que là, vous heurtez à mon côté plancher des vaches. Je pense que j'ai pas le pied marin, j'ai assez peu d'attirance pour le voyage maritime, mais vous savez, tout peut changer encore.
Je reviens sur ce personnage de Zoïl, puisqu'on parlait tout à l'heure du fait que, ben voilà, on sait jamais bien qui on est, et que c'est de pire en pire, vous le disiez, et je pense que beaucoup d'auditrices partagent cette sensation. Ce que dit Zoïl, c'est que, à un moment donné, puisque je redis, il se raconte, hein, il raconte sa rencontre, son aventure, son projet, il dit, à 15 ans, il y a une ardeur de l'intelligence qu'il importe d'attraper, comme certaines comètes, elle ne repassera plus. Comme si, on avait tout à l'adolescence et que après c'est fini.
Je dirais même que c'est beaucoup plus grave que ça. On a tout à l'âge de 3 ans et après commence la grande décrépitude. C'est ce qu'on voyait déjà dans mon livre Métaphysique des tubes. Oui. Après, on ne fait que décroître et c'est un fossile que vous avez invité à votre émission, Madeleine Caboche. Mais bon, voilà,
c'est le charme des ruines. Non, mais moi, je partage pas cet avis. Je trouve pas qu'on gagne plein d'autres choses magnifiques, une plus grande liberté.
Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. On découvre des choses. Je suis tout à fait d'accord. Disons que c'est un échange. On perd énormément de capacités, à commencer par des capacités intellectuelles. Mais on découvre d'autres choses, des choses dont évidemment on ne pouvait pas soupçonner la nature quand on était enfant ou adolescent. La principale chose qu'on découvre, c'est le temps. C'est que le plus grand mystère de la vie, c'est le temps. Et on ne peut absolument pas prévoir ses effets. Les principaux effets du temps étant bien sûr ce que l'on sent sur soi-même et sur ses amis, sur les relations humaines, vont-elles durer ? Les amitiés vont-elles durer ? Les amours vont-elles durer ? Qu'est-ce qui va durer dans la vie finalement ? C'est la chose au monde qu'on peut le moins prévoir et c'est ce qui fait que le temps qui passe est intéressant, c'est que on découvre ça, on approfondit la nature du temps. Et ce voyage-là, oui, certainement, en vaut la peine et rien ne peut en faire l'économie.
Mais vous dites les capacités intellectuelles. On a compris il n'y a pas trop longtemps, en regardant mieux le fonctionnement de ce cerveau, que ce qu'on nous disait avant, c'était faux. Il y a des liaisons qui se refont, qui s'inventent, il y a des choses qui fonctionnent et qui se remettent en place toujours.
Oui, non, mais bien sûr, on n'est pas complètement... vous voyez, ça, je suis encore capable de répondre à votre question, mais il y a quand même...
C'est quoi qui part
Il y a quelque chose qui se perd. Il y a quelque chose qui se perd. À 15 ans, comme Zoïl, j'ai eu le projet... fou que j'ai pas entièrement réalisé, mais que j'ai quand même réalisé partiellement, de retraduire toute seule l'Iliade et l'Odyssée. C'est une des parties autobiographiques du livre.
Oui, oui. Il raconte.
Eh bien, c'est un projet magnifique. Mmh. Là, je pourrais plus avoir ce projet-là, ne serait-ce que pour une raison toute simple, c'est que je n'en ai pas le temps. Comment voulez-vous faire ça en plus de faire tout ce que je fais? Donc ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut plus faire, malheureusement.
Mais vous pourriez choisir de le faire. Vous pourriez dire, je le fais.
C'est pas possible. Comment voulez-vous que je fasse ça avec tout ce que j'ai à écrire et avec tout ce que j'ai à faire à côté? Alors peut-être que quand j'aurai 75 ans, ce sera possible à nouveau. Je ne l'exclus pas. Je verrai.
Mais qu'est-ce que c'était cette aventure de traduction de l'Iliade et de l'Odyssée?
Eh bien, c'était partir toute seule, s'isoler dans un...
Donc ça, c'est vraiment vrai ce que fait le personnage dans le livre, alors?
Oui, oui, je l'ai vraiment fait. Je l'ai vraiment fait, m'isoler comme ça pendant 10 jours avec l'Iliade et l'Odyssée, ce qui évidemment ne m'a pas permis de retraduire l'Iliade et l'Odyssée en entier. Mais enfin, tout de même, de retraduire une bonne partie de l'Iliade dans une sensation d'ivresse absolue. Vraiment, j'étais en duel intime avec un texte sublime, avec mon dictionnaire pour se larmes, et il fallait que je retrouve les clés par moi-même. Ça, c'est une des très belles expériences de ma vie.
Et vous dites, hein, donc ça c'est à ce moment-là, hein, ce que j'ai lu justement, donc 9 jours, hein, mais qui évidemment ne suffirent pas même à traduire la moitié de l'Iliade. Ce fut cependant avec un sentiment de triomphe que je regagnais la ville. Donc on parle de un peu plus tard de cette ardeur de l'intelligence qui ne repasse plus. Et puis vous dites ensuite, à l'adolescence, bon, c'est un peu ce qu'on est en train de se dire, à l'adolescence se pose la question cruciale du rayonnement. Sera-t-on dans la lumière ou dans l'obscurité? J'aurais aimé, dit Zoïl, pouvoir choisir. Avez-vous l'impression d'avoir choisi Amélie Nothomb?
Pas du tout. Il faut dire que moi, à 15 ans, la question que je me posais, c'était même pas celle de la lumière ou de l'obscurité, c'était vais-je vivre ou vais-je ne pas vivre? J'en étais pas sûre du tout. Quant à la question de l'éventuel rayonnement, je ne me la suis jamais posée. J'ai commencé à écrire à 17 ans, sans savoir le moins du monde ce que j'allais faire avec tout ce que j'écrivais. Suite à l'échec japonais, donc là, à ce moment-là, j'avais 23 ans, je me suis dit, que vais-je faire de ma vie? Vais-je tenter de faire quelque chose avec tous ces cahiers que j'ai noircis et tous ceux que je vais encore noircir? J'ai tenté d'en publier un, ça a marché. Et je n'imaginais pas un instant que non seulement que mes livres seraient publiés, mais encore moins qu'ils seraient lus, mais encore moins que ça me vaudrait quelque chose qui ressemblerait à du succès. Donc, j'ai pas du tout l'impression d'avoir choisi.
Mais vous pourriez imaginer de faire une pause? Non, apparemment. De dire, cette année, je n'écris pas.
J'en ai tout à fait le droit, rien ne m'y force, mais je n'en ai absolument pas le souhait, puisque jusqu'à présent, chaque année, il y a eu, parmi tous les manuscrits que j'ai écrits dans l'année, au moins un que j'ai eu le désir ardent de partager. C'est une expérience très forte de partager un de ces textes. Et... c'est effrayant, mais ça apporte beaucoup. Si un jour je n'avais plus envie de le faire, je ne le ferais plus. Mais jusqu'ici, la tentation a été la plus forte.
Parce que vous êtes très attentive au lectorat, hein, vous répondez volontiers aux lettres.
Oui, bon, il ne faut pas se méprendre, bien sûr, sur cette attention. C'est une attention réelle, mais certaines personnes ont pu y voir un côté, je sais pas, testachat ou démocratie. Non, soyons clairs, c'est pas la démocratie. Je ne tiens pas compte de ce que les lecteurs, parce qu'il y a des lecteurs qui lisent mes livres comme ils iraient au restaurant et qui disaient oui, bon, moi je voudrais un peu plus de ceci, un peu moins de cela. Bon, c'est très gentil, je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais la littérature, c'est pas la démocratie. Hein. Le chef, c'est quand même moi. Et c'est l'exercice d'une tyrannie dont je suis d'ailleurs la première victime. Mais donc j'écoute les avis des gens avec réellement le plus grand intérêt, mais pas du tout dans le but de rectifier le tir par la suite. Un livre arrive comme ça, moi je tombe enceinte de mes livres. Bien sûr, je préfère qu'on les aime, mais si on ne les aime pas, ça ne change rien au fait que le prochain arrivera tout aussi brut que les précédents sont arrivés.
Mmh. La question « vais-je vivre ou ne pas vivre ?», il vous arrive de vous la poser encore ?
Oui, de façon moins concrète qu'à l'âge de 15 ans, puisqu'à l'âge de 15 ans, c'était une vraie question, puisque j'étais anorexique au dernier degré et que je n'étais pas assurée de continuer à vivre et que je n'avais vraiment pas le sentiment que ça dépendait de ma volonté. Bon, aujourd'hui, en toute apparence, ça va bien. Mais en même temps, je crois qu'on est tous logés à la même enseigne. Hein. Faut toujours être prêt. Hein. Un camion peut m'écraser dans la rue. Alexandre, là, de l'autre côté de la vitre, peut péter les plombs et tout à coup être pris d'une folie meurtrière. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
On va revenir sur le personnage de Zoé qui se promet de faire un attentat. J'aimerais que vous nous parliez de votre regard sur précisément les attentats terroristes. Vous dites, Zoé dit, finalement ces attentats terroristes, c'est une sorte de commérage à l'échelle planétaire. Sous-entendu, si on n'en parlait pas, il n'existerait pas.
C'est ce qu'il dit plus exactement, c'est qu'il parle des médias en termes de commérage à échelle planétaire.
C'est ça, oui.
Il dit que si les médias n'existaient pas, le terrorisme n'existait pas. C'est d'ailleurs une certitude. Ça ne résout rien, puisqu'il n'est absolument pas question que les médias n'existent pas. Mais on peut en effet l'observer historiquement. Aussi longtemps que les médias n'existaient pas au sens où ils existent aujourd'hui, il n'y avait pas de terrorisme. Le terrorisme ne marche que parce qu'il y a des médias. D'autre part, Zoé, dont on peut se douter quand même que c'est un fou dangereux vu tout ce qu'il raconte, comme souvent les fous dangereux et comme souvent les criminels, il a des coquetteries. Il déclare d'entrée de jeu qu'il n'est pas un terroriste. Oui, je vais faire sauter un avion, mais je ne suis pas un terroriste. Je ne veux pas être confondu avec cette pègre. Bon, ça, c'est sa façon de parler. Il n'est pas absurde en ceci qu'il n'a pas de revendication. Son acte est un acte... C'est un acte... On ne peut pas dire que c'est un acte d'amour, parce que ce serait plutôt un acte de haine, mais il ne cherche pas à obtenir quelque chose. Il est désespéré, c'est un acte de désespoir. Mais il ne se revendique pas du terrorisme.
Mais c'est vrai que votre regard, c'est un petit peu en général votre regard sur le mal. Hein, vous dites, c'est donné à tout le monde de faire le mal. Au fond, le terrorisme tel que vous l'analysez, vous dites, depuis trois, personne n'est dupe, on tue pour tuer, on brûle pour brûler. On ne doute pas de trouver ensuite une légitimation. C'est votre perception des choses. Il n'y a pas de combat jamais valable derrière ce terrorisme.
C'est évident qu'il n'y a pas de terrorisme juste. Aucune cause ne justifie le moindre assassinat. Je ne crois même pas aux causes. Même s'il va pas par ailleurs, on peut discuter qu'il y a des causes justes sur Terre. Mais dès l'instant où on tue pour une cause, on peut être absurde. Non seulement que cette cause n'est pas juste, mais même que cette cause n'est pas la cause. Et que derrière cette cause, il y a simplement le désir de tuer.
Et donc ça, vous aviez envie de nous le redire?
Oui, je suis pas la seule à le penser, mais c'est vrai que c'est quand on entend certaines personnes qui légitiment le terroriste au nom de la justesse de certaines causes, là les bras m'en tombent. Comment peut-on un instant imaginer associer logiquement l'éventuelle justesse d'une cause avec de l'assassinat?
Amélie Nothomb, vous faites allusion à Kessler qui dit ce qui a le plus tué, c'est le langage. Mais ce qui a le plus rassemblé les êtres aussi, quelquefois, c'est aussi le langage.
Oui, le langage est cet outil absolument mystérieux, tour à tour salvateur et assassin. Je pense que nous en avons tous très banalement fait l'expérience. Il nous est, je crois, à tous arrivé d'être assassiné par un mot et il nous est tous arrivé d'être sauvé par un mot. Il y a des mots dont on a absolument besoin pour vivre qui n'arrivent pas. Puis tout à coup, quelqu'un les dit. Ah, Et tout à coup, on se sent revivre parce qu'on a entendu ce mot dans la bouche de quelqu'un. L'inverse peut tout aussi bien se produire, avec souvent cette sensation aussi de balle perdue qu'on a vis-à-vis des mots. Hein. Les mots qui n'ont c'est pas vrai. Été dits intentionnellement et qui cependant vous tuent, c'est terrible. Le langage est une expérience très dangereuse. Quand on dit aux gens qu'il faut tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler, on a raison, mais on a raison parce que ça tue justement.
Le temps tourne, Amélie Nothomb. Ça va, c'est pas trop dur?
C'est terriblement dur.
Juliette, votre sœur de 2 ans, oui. L'aînée avec un carnet de cuisine dont on n'a pas parlé, mais j'aimerais bien qu'on aille la voir à Lyon un jour pour parler de ce livre.
Oh oui, faites-le, faites-le.
Ah, c'est vrai, on fera ça. C'est votre première lectrice toujours?
Ma sœur est toujours ma première lectrice. C'est une lectrice qui ne dit rien. Elle lit mes livres et puis elle ne dit rien. D'ailleurs, je ne lui fais pas lire mes livres pour avoir son avis. Je lui fais lire mes livres pour la mettre au courant de ce qui se passe dans l'autre moitié d'elle-même.
C'est-à-dire?
Ben, l'autre moitié d'elle-même, c'est vous. Voilà, mm-hmm. nous avons besoin d'être deux pour former un individu. Et donc, je lui fais lire mes livres pour qu'elle connaisse un petit peu l'actualité de l'autre moitié d'elle-même.
Donc là, elle en a appris à partir d'Astrolabe et d'Aliénor qui sont fusionnelles.
Il y a certainement une projection de ma sœur et moi dans Astrolabe et Aliénor, c'est certain.
Vous faites des réponses courtes, hein, Amélie.
Je suis désolée, je suis un cauchemar, le cauchemar de la radio. Mais
non, du tout, vraiment pas. Alors vous savez, je vais pas dire des mots qui tuent, je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé votre livre. Ça, c'est pas des mots qui tuent, je pense pas, en tout cas j'espère pas.
Des mots qui font très plaisir.
Et puis on va se quitter comme ça. On se voit toujours de loin, et puis j'ai sous le nez votre photo chez Harcourt, hein, comme couverture du livre. Très très belle photo.
Merci.
Que vous avez choisi, vous?
Oui, mais alors je veux dire, tout le monde a été d'accord quand ils ont vu la photo. Ils ont dit, bah, il n'y a pas de doute, bien sûr, on va prendre cette photo-là.
C'est long de poser pour Harcourt?
Mais pas tellement, justement. Bon, j'ai maintenant, je peux faire la comparaison entre le travail de plusieurs grands photographes. Par exemple, Pierre et Gilles et Marianne Rosenstiel, ça prend 24 heures une séance de pause. Mais dans le cas des studios Harcourt, tout compris, entre le moment où je suis entrée dans les studios et le moment où j'en suis sortie, ça a pris 2 heures. Je trouve que c'est pas très long.
Pourquoi 24 heures? C'est long pour les autres.
Oh, vous savez, pour me rendre présentable, il faut du temps.
Voilà, ça. Je te l'attendais, celle-là. Elle est magnifique, cette photo. Et ça a été très vite, celle-ci aussi. Donc, voilà, Amélie. Hein. Bon, merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Qu'est-ce que c'est la suite de votre journée?
Là, je retourne chez mon éditeur pour chercher le courrier de mes lecteurs. Et puis, bien d'autres aventures m'attendent par la suite.
Bon, médiatique?
Entre autres. Mais pas seulement.
Bon, secrète alors.
Voilà.
Amélie Nothomb avec nous, Le Voyage d'hiver, paru chez Albin Michel. Bon après-midi, Amélie Nothomb. Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. C'est Carmen Algarada qui l'a réalisé. Nathalie Schoenberg a choisi les disques et c'est Monique Cortesi, l'assistante de production, et Alexandre Lemire à Paris.
Pour obtenir une copie de cette émission, composez dès maintenant le 026 323 24 24.
Et puis pour nous envoyer des mails que je peux faire suivre à Amélie Nothomb, rng@rsr.ch. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à l'écoute de la première. Bien sûr, tout à l'heure, après les informations, vous retrouverez Laurence Bizang et les décodeurs. Il est très exactement 11h sur la première.